Merci Edouard Dupénoit. À tout à l'heure. RFI Matin continue avec le journal des sports. Bonjour Florence Valmet.
Bonjour Julien.
Et le football, début ce vendredi du tour de repêchage pour le prochain CHAN.
Deux rencontres au programme, le Gabon doit affronter la Gambie. Le match pourrait être décalé éventuellement à demain en raison de problèmes de logistique de transport. L'Afrique du Sud, elle, est opposée à l'Égypte. Les matchs retour sont programmés pour le 8 mars. Chaque équipe va tenter de se qualifier pour la compétition initialement prévue ce mois-ci et finalement reportée du 2 au 30 août prochain dans trois pays co-organisateurs, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.
Le football toujours avec la Ligue 1 en France. L'AS Monaco reçoit Reims ce vendredi en ouverture de la 24e journée.
Le club de la Principauté paye ces dernières semaines ses difficultés sur le plan défensif à l'image de Wilfried Tsingo. Depuis son retour de blessure, l'Ivoirien peine à retrouver ce qui avait fait de lui la révélation du début de saison. Baptiste Leduc, Wilfried Tsingo a coûté cher à Monaco dernièrement.
C'est l'illustration parfaite du grain de sable qui vient enrayer une machine parfaitement huilée. Au soir du 24 janvier, Wilfried Tsingo a permis à Monaco de battre Aston Villa en Ligue des Champions grâce à une performance exceptionnelle, seulement ternie par cette blessure aux ischios qui le tiendra éloigné des terrains pendant plus de 3 semaines. À son retour contre Benfica, en barrage de la même compétition, les Monégasques pensent retrouver leur roc défensif. Mais Tsingo semble perdu sur le terrain. Pire, il est directement fautif sur l'ouverture du score portugaise. Rebelote le week-end dernier, l'Ivoirien manque complètement sa première période et ses errances coûtent 2 buts, la défaite et la place sur le podium pour Monaco. Le staff assémiste a-t-il précipité le retour de Wilfried Tsingo ? L'hypothèse est hasardeuse. Contre Benfica et Lille, le défenseur a joué les 90 minutes et tout a l'air d'aller bien physiquement. C'est dans son jeu et ses qualités que Tsingo doit retrouver confiance. Le plus tôt sera le mieux. Monaco doit battre Reims ce vendredi s'il veut retrouver le top 3.
Et le match est à 19h45 TU. Enfin, cette info foot selon un média africain. Aliou Cissé pourrait très prochainement s'engager pour 2 ans avec la sélection de la Libye. L'ancien sélectionneur du Sénégal devrait arriver avec un adjoint, un préparateur physique et un entraîneur des gardiens.
On passe au cyclisme. Total Énergie en chasse un autre autour du Rwanda.
Joris Delbove est le nouveau maillot jaune après sa victoire sur la 4e étape à Karonji. Le Français est arrivé avec quelques secondes d'avance sur le groupe des favoris dont faisait partie son coéquipier Fabien Doubet, leader du classement général depuis lundi. Fabien Doubet, pas trop déçu de laisser les honneurs à un autre coureur de sa formation.
Non, c'est toujours le maillot jaune dans l'équipe, donc ça c'est super. Et en plus une victoire au bout, donc c'est vraiment une journée, une très belle journée pour l'équipe. On est deux bien placés au général. Donc maintenant, c'est à nous de bien jouer stratégiquement. C'est sûr que c'est un plus par rapport à certaines équipes. Donc va falloir bien être vigilant et bien gérer ces 3 dernières étapes parce que pour moi, ça reste les étapes les plus dures du Tour.
Propos recueillis par Thomas de Saint-Léger. Aujourd'hui, ça va grimper. 5e étape entre Roussizy et Houillé sur 144 km avec presque 3400 mètres de dénivelé. Le Tour qui se déroule avec en toile de fond le conflit à l'est de la RDC.
Et il est à la une, évidemment, de toutes nos éditions. Merci Florence Valmet.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'info ce matin, c'est le mea culpa de l'armée israélienne avec les conclusions hier de l'enquête interne sur les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Près de 1200 morts et un échec complet, reconnaît l'armée israélienne. Elle n'a pas rempli sa mission de protection des civils israéliens, reconnaît un responsable. À la une également, la Turquie et cet appel historique du fondateur et chef du PKK, le parti des travailleurs kurdes, ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Öcalan appelle à déposer les armes et à dissoudre le mouvement. Une lueur d'espoir qui pourrait mener à la résolution d'un conflit de longue durée, réagit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef des forces démocratiques syriennes, les forces kurdes en Syrie, salue cet appel mais ne se sent pas concerné. Selon lui, le groupe armé ne doit pas être dissous mais intégré à la nouvelle armée syrienne. Et puis la Chine promet de prendre toutes les contre-mesures nécessaires alors que les États-Unis vont relever leurs taxes sur les produits chinois dès mardi. Annonce de Donald Trump qui indique aussi que les droits de douane promis au Canada et au Mexique entreront également en vigueur le 4 mars, 5h47 en temps universel. Avec notre grand invité Afrique, coup de projecteur ce matin sur la Tunisie, épinglée cette semaine par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui dénonce la persécution des opposants dans le pays. La Tunisie a remis en liberté la semaine dernière 4 détenus politiques, un député, un ancien ministre, un journaliste et l'ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité en charge de la justice transitionnelle. 4 libérations dont se sont réjouis les défenseurs des droits de l'homme, mais qui ne sont pour eux que l'arbre qui cache la forêt, car plusieurs dizaines d'autres figures de l'opposition et de la société civile restent en prison, notamment pour avoir soutenu des migrants. Plusieurs ONG tunisiennes interpellent donc aujourd'hui le président Kais Saied, mais aussi la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ramdan Benhamor est le porte-parole du FTDES, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux en ligne de Tunis. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Ramdan Benhamor, bonjour.
Bonjour.
La libération la semaine dernière de 4 opposants et militants pour les droits de l'homme, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Bon, bien sûr, toujours les libérations sont des bonnes nouvelles. La liberté est une chose qui nous satisfait, bien sûr, surtout pour des personnes qui sont détenues depuis des mois. Mais c'est pas un signe d'une ouverture de la part de la présidence de la République en Tunisie. Donc, ce sont des actions qui ont anticipé les réunions du Conseil des droits de l'homme, où la Tunisie sera aussi convoquée. Et donc, c'est une action qui a anticipé un peu les critiques. Mais voilà, donc hier, on n'était pas très satisfait de ce qui s'est passé parce que le tribunal de Tunis a refusé la libération aussi des personnes qui travaillent dans des ONG d'aide aux migrants.
Alors, il y a ces 4 figures tunisiennes qui viennent d'être libérées, mais combien d'autres restent en prison ?
Tout d'abord, il y a des dizaines de décideurs politiques qui sont encore en prison dans l'affaire de Complot. Et on a aussi des dizaines de décideurs ou bien des gens qui ont travaillé dans des ONG, surtout liés à la migration, qui sont encore en prison. Donc, ils ont dépassé aujourd'hui le 300 jours. Et on a malheureusement des dizaines de jeunes qui sont en prison, juste qu'ils ont critiqué la situation ou bien politique, ou bien économique, ou bien sociale par le fameux décret 54 qui est maintenant le plus utilisé pour faire taire toutes les voix qui critiquent la situation.
Alors vous parlez du décret 54, c'est ce décret présidentiel de septembre 2022 qui vise officiellement à lutter contre les fake news, les fausses informations, et qui est à l'origine des poursuites judiciaires actuelles contre quelques 400 personnes. Parmi elles, il y a 2 figures de la société civile, l'ancien conseiller du haut commissaire aux réfugiés Antonio Guterres, il s'agit bien sûr du grand diplomate Mustapha Djemali, et puis la directrice de Terre d'Asile Tunisie, Chérifa Riahi, qui a été arrêtée l'année dernière 2 mois après son accouchement. Pourquoi cet acharnement contre ces personnalités ?
Donc pour Kais Saied, quand il a fait son discours raciste le 21 février 2023 envers les migrants, donc il a parlé d'un complot contre l'État tunisien pour changer la composition démocratique. Alors les organismes de l'État, ils ont mobilisé pour prouver ces propos de Kais Saied, pour dire que voilà qu'il y a un vrai complot, surtout au niveau de la situation avec les migrants. Et l'État surtout a été mobilisé après une réunion du Conseil de sécurité nationale, donc en mai 2023. Ils ont visé surtout les ONG qui travaillent pour soutenir les migrants. Donc, ils ont visé Mustapha Djemali, Abdelrazak Lekrimi du Conseil tunisien des réfugiés, Riyad Bousselmi, Chérifa Riahi, Mohamed Jouhou du Terre d'Asile Tunisie, Saadi Msbah de l'association Amnemti et les autres. Donc, à travers ces propos, Kais Saied dit voilà, qu'il y a un vrai plan et que ce plan-là vient des gens qui ont des relations avec l'étranger. Donc, quand on parle de Mustapha Djemali, par exemple, aux terres d'asile. Donc, ce sont pour Kais Saied les stéréotypes qui nourrissent sa narration. Et aussi pour Kais Saied, ce sont les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'autre dans cette complot.
Et pensez-vous que la mobilisation tunisienne et internationale pour ces personnalités, comme Mustapha Djemali par exemple, est-ce qu'elle peut convaincre les autorités de décider une mesure de clémence ?
Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a une mobilisation nationale en Tunisie malgré les climats de peur. Donc, il y a toujours des associations, des militants, des militantes qui essaient de se mobiliser, de faire des actions pour faire le pression, pour demander et exiger la libération des détenus, quels que soient des politiques ou bien des détenus, surtout de la société civile. Malheureusement, sur le plan international, pour nous, on a déjà un Saint-Denis sur la position de l'Union européenne, parce qu'au moment où Kais Saied il fait la répression contre les migrants et la société civile, on a vu beaucoup de dirigeants européens qui viennent en Tunisie, qui saluent la Tunisie des efforts menés pour la lutte contre la migration. migration non réglementaire. Donc il y a une manière de complice aussi de la part de beaucoup des dirigeants européens.
Et quand vous parlez de la complicité de certains dirigeants européens, à qui pensez-vous ?
Bon, bien sûr, toujours on pense donc à Giorgia Meloni qui a créé cette alliance. Et donc on a vu ce qu'a fait Giorgia Meloni, ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères italien, qui est maintenant le porte-parole de Kais Saied dans les instances, pas seulement européennes, mais les instances internationales.
Ramdan Benhamor, je vous remercie.
Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. C'est dans un peu plus d'un mois et demi, fin avril, dans le monde entier, on célébrera comme chaque année les fêtes de Pâques, l'occasion dans de nombreux pays, au-delà des fêtes religieuses, de se lancer dans une grande chasse aux œufs en chocolat. Mais ce matin, c'est dans une autre chasse aux œufs qu'on parle. C'est d'une autre chasse aux œufs, pardon, qu'on parle dans RFI Matin, celle dans laquelle s'est lancé tout un pays. Les États-Unis, où l'on mange en moyenne 277 œufs par personne et par an, et où les œufs sont devenus le symbole de la hausse des prix en plus de la pénurie. C'est l'actualité des matières premières à Washington avec Guillaume Nodin.
C'est une expérience étonnante et inattendue, vivre dans l'un des pays les plus riches au monde et avoir du mal à trouver une denrée aussi basique que des œufs. C'est pourtant ce qui arrive aux consommateurs américains. Il faut voir les rayons pratiquement vides dans les supermarchés où les clients se pressent pour se saisir des rares boîtes restantes qui contiennent parfois des œufs cassés, où la vente est rationnée à une douzaine par client et où ces clients qui décrochent le gros lot sont parfois félicités en parvenant à la caisse au terme de leur parcours. Des chargements de camions entiers disparaissent, 100 000 œufs ont été volés en Pennsylvanie début février. La pénurie dure depuis des semaines et comme ce qui est rare est cher, les prix montent, 15% d'augmentation en janvier et le ministère de l'Agriculture s'attend à une hausse de plus de 40% cette année. Le prix des œufs était l'un des sujets de la campagne présidentielle, sans que l'on sache vraiment si cela a fait basculer le résultat. Le sujet a été évoqué dès le premier point presse de la nouvelle administration, qui a mis la hausse des prix sur le dos de la présidence Biden. C'est qu'avant l'œuf, il y a la poule, et des poules pondeuses, il y en a de moins en moins aux États-Unis, en cause la grippe aviaire qui a décimé les élevages ces dernières années. Elle circule chez les oiseaux sauvages et se propage dans les poulaillers. Habituellement, les éleveurs abattent les poules et rechignent à vacciner de peur de ne pouvoir exporter leurs marchandises dans les pays qui ne veulent pas d'œufs de poules vaccinées. Cela va peut-être changer. L'administration Trump annonce un plan à 1 milliard de dollars qui prévoit notamment de développer la vaccination, mais cela prendra du temps. En attendant, il sera toujours possible d'importer des œufs, même s'il n'est pas précisé s'il y aura des droits de douane.
Guillaume Nodin à Washington pour les matières premières. Et c'est votre rendez-vous du vendredi pour distinguer le faux du vrai. Aujourd'hui, les dessous de l'Infox nous emmènent en Algérie où de fausses rumeurs de coup d'État circulent sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes affirment à tort que le régime d'Abdelmadjid Tebboune aurait été renversé par l'armée mardi. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour.
Cette fausse information diffusée par des comptes étrangers est un nouvel exemple de la lutte informationnelle grandissante qui se joue dans la région.
Oui, la rumeur s'est répandue en ligne après la publication sur TikTok d'une série de vidéos par un compte pro-malien relativement influent avec près d'un million d'abonnés et plus de 6 millions de likes. L'homme reconnaissable avec son béret rouge se filme face caméra et il annonce
« Coup d'État en Algérie, vraiment, voici l'image, vraiment, selon l'explication, le pouvoir algérien, Abdelmadjid Tebboune, vraiment, il était renversé aujourd'hui depuis à 4h du matin. »
Pour appuyer son récit, plusieurs images défilent derrière lui. On y voit alors des milliers de manifestants défilant sous des drapeaux verts et blancs, suivis d'une revue des troupes de la part du général d'armée algérien Saïd Chanegria. À en croire le commentaire, c'est lui qui aurait pris le pouvoir par la force.
Sauf que, vérification faite, c'est une infox.
Oui, soyons clairs, il n'y a pas eu de coup d'État en Algérie ces derniers jours. Abdelmadjid Tebboune n'a pas été chassé du pouvoir. On a d'ailleurs pu le voir à Alger, aux côtés du ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Bakary Yahou Sangaré, ce mardi. L'armée ne s'est pas rebellée, la rumeur a simplement été fabriquée de toutes pièces.
Et sur la forme aussi, tout est faux, Grégory.
Oui, comme c'est souvent le cas, les images présentées comme des preuves sont toutes sorties de leur contexte. Grâce à une recherche par image inversée, on sait que la vidéo montrant des manifestants a été filmée dans les rues d'Alger en octobre 2019. Nous l'avons géolocalisée au niveau de la rue Aslaoussine, à côté de l'Assemblée Populaire Nationale. Quant à la revue des troupes du général Saïd Chanegria, eh bien la vidéo est bien récente, elle date de ce dimanche, mais elle montre en réalité la cérémonie d'installation officielle du nouveau commandant de l'armée de l'air, le général-major Soubir Gouila. Rien à voir donc avec un supposé coup d'État.
Et Grégory, c'est loin d'être la première fois que de fausses rumeurs de coup d'État circulent sur le continent africain.
Non, les faux coups d'État se multiplient. La Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et l'Algérie en ont notamment été victimes ces derniers mois. Ces rumeurs sont devenues un véritable moyen de déstabilisation informationnelle. La recette est plutôt simple, mais les chiffres de viralité montrent que ces infox touchent à chaque fois un certain public. Et ça, les commanditaires de ces opérations de désinformation l'ont visiblement bien compris.
Et au-delà de leur viralité, comment expliquer l'augmentation de ce type d'opération ?
Eh bien, il faut dire que sur fond de guerre d'influence grandissante au Sahel et au Sahara, le contexte informationnel s'est particulièrement tendu. Des comptes pro-maliens, pro-algériens ou pro-marocains notamment s'affrontent quotidiennement sur les réseaux sociaux en diffusant des fausses informations pour déstabiliser le voisin. Et la première victime de cette bataille numérique, c'est l'information fiable et vérifiée.
Les dessous de l'infox, Grégory Genevrier, une info fiable et vérifiée que vous retrouvez dans l'émission Les dessous de l'infox à 17h30, temps universel et plus près de nous. Dans une minute, avec le journal. À tout de suite sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
C'est une date historique. Le 28 février 1990 prenait fin la Conférence nationale des forces vives du Bénin, un événement qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie. 35 ans après, les Béninois sont-ils fiers du chemin parcouru ? On en parle avec le public de Cotonou et nos invités.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Carrefour du Maghreb,
à Marrakech, au Jardin Majorelle.
Juliette Rangeval.
Nous vous emmenons dans cette oasis de couleurs, l'un des lieux les plus visités au Maroc. Ce jardin emblématique, refuge du couturier Yves Saint-Laurent, s'est profondément modifié ces dernières années pour s'adapter aux défis du changement climatique.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.